Bonjour, ici Grégory Philips, je dirige le service reportage de BFM TV. Il y a bientôt 2 mois, le 7 octobre au matin, le Hamas lançait une vaste opération terroriste contre Israël. 1200 morts dans le sud du pays, plus de 200 personnes retenues en otage et quasi immédiatement la réplique de l'État hébreu sur la bande de Gaza avec des bombardements massifs depuis le 7 octobre. Ces frappes ont déjà fait plus de 15 000 morts dans l'enclave palestinienne. Sur ces quasiment 2 mois de guerre, Nicolas Coadou et le journaliste reporter d'images Théo Touchet ont passé plus de 30 jours en Israël. 2 missions chacun, la première dès le 8 octobre, la seconde en ce moment. Nicolas et Théo ont assisté aux premières libérations d'otages. Ils ont enquêté sur les viols commis le 7 octobre par les islamistes du Hamas. Ils sont allés en Cisjordanie à la rencontre des prisonniers palestiniens récemment libérés. Nous sommes le lundi 4 décembre, il est 11h à Paris. Midi en Israël et en Palestine, 2 mois au cœur du conflit entre le Hamas et Israël, c'est l'épisode 58 du service reportage. Bonjour Théo et Nicolas.
Salut Greg.
Salut Greg.
C'est donc votre deuxième mission en Israël depuis le début de cette guerre. Depuis quelques jours, vous avez assisté à des scènes assez forte, je dois dire, c'est la libération des otages. C'est un peu dans cette atmosphère-là que vous travaillez depuis quelques jours. Racontez-nous.
Oui, on a assisté effectivement à la libération des otages, mais on a surtout commencé avec le début de cette trêve. Ce qui était assez aussi impressionnant à voir de nos propres yeux. Alors en fait, la trêve commençait le vendredi 24 octobre à 7h du matin. Et nous, cette matinée-là, on est allé à Sderot. Sderot, qui est une ville située à 1,5 km de la bande de Gaza. Et on était sur une colline qui nous permettait d'avoir une vue panoramique sur le nord de la bande de Gaza. Et à 6h30, des bombardements incessants sur justement cette enclave palestinienne, des énormes panaches de fumée noire. De l'autre côté, le Hamas qui continue de lancer des roquettes sur le sud du pays. À ce moment-là, pour nous, on sait que la trêve va commencer, mais c'est assez inconcevable vu tout ce décor. Et 7h05, l'heure de la trêve arrive, dernière attaque des deux côtés, et là la trêve vient de commencer, grand silence, un silence qui aura duré à peu près une semaine justement. Donc ça c'était un moment assez fort justement à vivre de nos propres yeux.
Surtout pour vous deux qui aviez vécu les premières heures de la guerre, parce que vous étiez partis dès le dimanche. Et donc début de la trêve, les armes se taisent à 7h du matin. Et ça entraîne donc la libération d'otages et de prisonniers palestiniens, Nicolas. D'abord, les otages, j'imagine que c'est des moments assez forts à vivre et à suivre.
C'est des moments assez forts parce que ça fait plusieurs semaines qu'on accompagne les familles, qu'on recueille leurs témoignages. Il y a un endroit à Tel Aviv où ils sont tous rassemblés depuis le début de cette guerre, avec des moments très forts. Il y a notamment une table vide avec autant de chaises que d'otages retenus dans la bande de Gaza. Donc c'était un moment qui est déjà très attendu d'un côté par la population israélienne. Et à côté de ça, donc, il y a de la joie parce que c'est un message d'espoir pour toutes les familles d'otages. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'angoisse parce que nous, on sent que cette trêve, elle est fragile finalement et qu'elle tient à peu de choses, qu'elle tient à un jeu de billard un petit peu diplomatique avec d'un côté le Hamas, de l'autre côté l'Israël. Au milieu de tout ça, il y a le Qatar, il y a l'Égypte, il y a les États-Unis. Donc en fait, on sait que cette trêve et cet accord d'échange d'otages, il peut capoter à tout moment. D'ailleurs, même les familles nous le disent, en fait, même à partir du moment... En fait, ouais, pour recontextualiser un petit peu, tous les jours, il y a une liste de 10 personnes, de 10 otages qui est transmise par le Hamas au gouvernement israélien et donc qui contient les noms des otages qui sont censés être libérés dans la journée. Donc déjà, il y a une attente particulière autour de cette liste des familles d'otages. Et dans un même temps, ils nous expliquent aussi tous que tant qu'ils ne voient pas les images de leurs proches, de leurs enfants qui sont remis à la Croix-Rouge, ils préfèrent ne pas y croire.
Comment est-ce que vous communiquez avec ces familles d'otages? Elles sont réceptives, elles parlent aux médias, elles sont au contraire discrètes parce qu'elles sont dans l'attente et dans l'angoisse. Comment ça se passe?
En fait, ça dépend vraiment des familles. Il y a certaines familles qui ont fait le choix très rapidement depuis le début de la guerre, depuis le début de la prise d'otages de leurs proches, d'attirer au maximum les médias, de parler le plus possible de leurs histoires. C'est pour ça que finalement, des otages, il y en avait plus de 200 et il y a des histoires qu'on entend beaucoup plus que d'autres. Donc ça, c'est le cas de certaines familles. Et puis à côté de ça, il y en a d'autres qui ont fait le choix de rester dans la discrétion, qui communiquent très très peu dans les médias. Donc en fait, nous, pour se mettre en lien avec les familles, en fait, finalement, on est en lien avec eux depuis plus de 50 jours, parce que dès le 7 octobre, on a commencé un petit peu à discuter avec eux. Forcément, on travaille pour une télé française, donc on va avoir un prisme un peu plus orienté vers les familles d'otages franco-israéliens, bien sûr. Donc en fait, nous, on est en lien quasiment permanent avec eux. Il y en a même certains qui ont des attachés de presse, en fait, donc des personnes extérieures qu'ils ont engagées, qui assurent leur communication, souvent de manière bénévole, et on passe souvent par eux pour avoir des témoignages de familles d'otages, ouais.
Et puis donc, il y a eu la libération du petit Ethan, ce petit franco-israélien, avec une scène absolument incroyable que vous produisez en direct un matin la semaine dernière. Vous êtes avec la tante d'Ethan qui vient d'être libérée et qui vous révèle les conditions dans lesquelles il a été captif. Quand tu prends l'antenne, Nicolas, est-ce que tu sais ce qu'elle va te dire ?
Quand je prends l'antenne, oui, mais 3 minutes avant, non, parce qu'en fait, pour avoir un petit peu les dessous, on commençait le direct avec elle à 8h10, heure locale. Donc en fait, elle arrive un petit peu en retard. Normalement, on aime bien qu'elle arrive à peu près au moins 10-20 minutes en avance, avoir le temps d'un petit peu discuter, préparer l'interview. Là, elle est en retard, elle se retrouve dans les embouteillages, donc elle arrive vraiment 5 minutes avant la prise d'antenne. Donc je la salue, on discute un petit peu, je lui demande si elle a des nouvelles d'Ethan, parce que c'est en fait c'est ça la question qu'on se pose à partir de où on interviewe les familles d'otages libérées, c'est comment il va, qu'est-ce qu'il a raconté déjà. Et là, très rapidement, je vois à sa tête qu'il y a un problème. Elle me dit non, ça va pas du tout. Elle commence à m'expliquer qu'il a été violenté, qu'il a été menacé avec une arme quand il faisait trop de bruit. Elle m'explique aussi qu'il a visionné des images qui lui ont été montrées par le Hamas, des images absolument horribles sur le massacre. Donc là, on sait que l'interview va être très forte. Donc théoriquement, je devais faire peut-être une minute d'interview, donc très rapidement, je préviens la rédaction en chef et je leur dis attention, ça va être fort, préparez-vous à me laisser plus de temps et peut-être à alerter, à lui donner une plus grande place à l'antenne, parce que vraiment c'est ce que ça valait et on sentait que ça allait être totalement l'information de la journée.
Oui, Ethan apparemment a passé des horreurs là-bas. Le Hamas, ISIS, il a obligé de voir le film d'horreur que personne ne veut voir. Il est obligé à regarder ça.
On parle du film des exactions du 7 novembre.
Oui, oui, oui. Tout le film. Et chaque fois qu'un enfant pleurait là-bas, il lui a menacé avec une arme pour qu'il se taise. Et arrivé à Gaza, tous les civils, tout le monde l'ont tapé quand il est arrivé là-bas. C'est un enfant de 12 ans. On parle d'un enfant de 12 ans.
Est-ce que vous vous attendiez à une telle horreur, à ce qu'il raconte des choses indescriptibles, comme ce que vous venez de nous dire, Déborah ?
Honnêtement, non. Peut-être je suis naïve, mais je voulais espérer qu'il soit bien traité. Mais apparemment, non. C'est des monstres.
Et puis, il y a un autre sujet extrêmement compliqué sur lequel vous avez travaillé ces derniers jours, c'est la question des viols et des violences sexuelles commises le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur un sujet aussi difficile? Comment est-ce que vous avez fait pour recueillir peut-être des témoignages?
En fait, le problème de ce sujet-là, déjà d'emblée, c'est ce que nous disent tous nos interlocuteurs, c'est que des témoignages directs, il y en a très peu parce que la plupart des victimes, elles sont mortes. Donc nous, en fait, tout début, on est parti tout simplement des preuves visuelles qu'on avait, à savoir les vidéos qui ont été produites par le Hamas après le 7 octobre, des vidéos extrêmement violentes, des vidéos de revendication de ces attaques où on voit des premiers indices de violence sexuelle, on voit des femmes les jambes écartées, nues, avec le corps carbonisé, on voit également des femmes qui sont emmenées à Gaza avec du sang au niveau de l'entrejambe. Donc déjà, on sait que c'est extrêmement... qu'il y a quelque chose à creuser à cette question-là, quoi. Ensuite, nous, on essaie d'avoir des témoins les plus directs possibles. Donc on a notamment interviewé un secouriste de Zaka. Zaka, c'est une organisation volontaire de secouristes ici en Israël. Et en fait, c'est eux qui sont intervenus les premiers dans les kibbutz sur le festival de Reim, la fameuse rave party où il y a eu un massacre avec plus de 200 morts là-bas. Et en fait, lui, il a documenté tout ça. Donc en fait, il a pris des photos. Pas spécifiquement initialement des violences sexuelles, mais des violences tout court. Donc en fait, lui, Il faut savoir que ces Zaka, c'est des gens qui sont extrêmement religieux. Donc, normalement, ils ne parlent pas trop de tout ce qui est violence sexuelle, de ce genre de choses. C'est un sujet qui est tabou chez eux. Donc, à partir du moment où ils en parlent, c'est que vraiment, c'est extrêmement grave. Et là, ils nous montrent des photos. Je suis désolé pour les auditeurs, je vais être assez graphique, mais c'est important. On voit des photos avec des femmes le pantalon baissé, avec des balles dans le vagin. On voit une femme également avec un ciseau, une paire de ciseaux ou un couteau, je ne saurais pas te dire exactement, planté dans le vagin exactement, et des photos comme ça, il y en a des dizaines, des dizaines et des dizaines. On sait aussi que cette question-là des viols, ça a été revendiqué par le Hamas dans le sens où l'armée israélienne a publié des vidéos d'interrogatoires de certains membres des commandos qui ont été arrêtés, et eux-mêmes, ils expliquent que ça faisait partie des consignes de violer pour terroriser la population.
Et ce reportage, on pourra le voir demain matin sur l'antenne de BFM TV. Parallèlement à ça, depuis le 7 octobre, la bande de Gaza est bombardée par l'armée israélienne, d'abord le nord, maintenant le sud de la bande de Gaza, avec un nombre de morts très impressionnant. On est à plus de 15 000 morts aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites tous les deux pour raconter ce qui se passe de l'autre côté, côté palestinien, côté Gaza?
Nous déjà, notre seule option justement pour raconter ou même voir de nos propres yeux, c'est d'aller sur justement la colline de Sderot. C'est un spot où il y a vraiment beaucoup de télévision, beaucoup de journalistes du monde entier qui, à l'aide de leurs caméras, zooment sur le nord de la bande de Gaza et justement constatent les bombardements israéliens. On entend aussi parfois des tirs d'armes automatiques. Nous, de notre personne, c'est la seule manière justement où on peut constater ces combats, si ce n'est justement d'y aller. Sinon, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des journalistes palestiniens qui sont situés à Gaza et qui racontent depuis le 7 octobre tout ce qui se passe dans l'enclave palestinienne au détriment parfois de leur vie. Je crois qu'à l'heure où on se parle, il y a plus de 58 journalistes palestiniens qui sont décédés depuis le 7 octobre.
60 ce matin.
Voilà, exactement. 60 ce matin. 60 journalistes palestiniens, donc voilà, qui font ce travail très courageusement pour nous informer, pour informer le monde de ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a vraiment une guerre dans l'information. Nous, en tant que journalistes français, c'est très compliqué, voire même impossible d'aller justement à Gaza et de raconter ce qui s'y passe. Donc on compte justement sur ce travail de nos confrères palestiniens qui est très précieux.
Il faut préciser, Nicolas, que donc la bande de Gaza n'est pas accessible aux journalistes depuis le 7 octobre. Tout simplement parce que Israël, l'armée israélienne, interdit l'accès.
Oui, absolument.
C'est ça la raison principale.
Oui, il y a une zone d'exclusion tout autour de la bande de Gaza. Et depuis le 7 octobre, les journalistes, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient internationaux, n'ont pas le droit de rentrer dans la bande de Gaza. Alors, la raison officielle invoquée par l'armée israélienne, c'est des raisons sécuritaires, des raisons qu'on peut bien sûr comprendre. Mais en fait, pour nous, journalistes, c'est une frustration énorme d'observer de loin, sur cette colline dont parlait Théo, ce qui se passe dans la bande de Gaza, sans pouvoir y aller, parce que quand on fait ce métier-là, quand on est journaliste et a fortiori dans des zones de conflit, nous, notre but, ce qu'on veut faire, c'est aller au plus proche des populations civiles, documenter ce qui se passe. Donc il y a une frustration assez forte de ne pas pouvoir rentrer dans Gaza pour justement pouvoir faire notre travail là-bas. Alors l'armée israélienne, elle propose parfois à certains journalistes, c'est un petit peu compliqué, d'entrer avec eux, ce qu'on appelle des embeds, pendant quelques heures dans la bande de Gaza. Déjà, c'est compliqué de le faire parce qu'ils choisissent les médias avec lesquels ils veulent travailler. Et dans un deuxième temps, ça reste extrêmement limité parce qu'on va dans les endroits où l'armée israélienne veut bien nous emmener. Et donc, c'est pas un travail total et c'est pas totalement du journaliste objectif, quoi.
C'est très maîtrisé par l'armée, on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer.
Exactement.
Et c'est pour ça que justement, c'est une situation qui commence à être très problématique. Il y a une tribune qui a été publiée dans Libération il y a quelques semaines. Une nouvelle tribune, justement, signée par plus de 200 journalistes, publiée dans L'Humanité il y a quelques jours, pour une nouvelle fois appelée à protéger les journalistes palestiniens et permettre aux journalistes du monde entier de venir dans Gaza, de raconter ce qui s'y passe.
Du coup, comment est-ce que vous faites pour, malgré tout, recueillir des informations de ce qui se passe à l'intérieur de l'enclave?
En fait, il faut croiser les sources. Déjà, Théo en a parlé, déjà on observe des choses. Donc, depuis cette fameuse colline, on peut distinguer la reprise des bombardements aériens, on peut distinguer les tirs d'artillerie, on peut distinguer les tirs, bien entendu, d'armes automatiques. Ensuite, il y a tout le travail des journalistes qui sont présents sur place, à savoir, je pense notamment à un journaliste qu'on suit beaucoup, qui s'appelle Rami Abujamus. En fait, Rami, c'est un journaliste fixeur francophone qui parle à énormément de journalistes en France. Il y a notamment un groupe WhatsApp qui s'appelle Gazavi, sur lequel il partage son quotidien tous les jours. Il nous explique qu'il est toujours en vie et il essaie de documenter ce qui se passe du mieux qu'il peut en nous envoyant des photos, en nous envoyant des vidéos, en nous envoyant des messages vocaux. Et donc ça, c'est extrêmement précieux pour nous.
Et là, en ce moment, Rami se trouve à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
L'armée israélienne est en train de diviser la bande de Gaza en trois. La première division, c'était le nord de la bande de Gaza, c'est-à-dire le nord de Gaza, la bande de Gaza, Jabalia, Beit Hanoun, Beit Lahia et la ville de Gaza. Et là, ils sont en train de diviser entre la Wadi Gaza jusqu'au Khan Younes. Ils ont demandé à tout le monde de quitter, même les habitants de Deir el-Balah. J'ai reçu plein de d'appels des amis qui veulent évacuer parce que, comme je vous ai dit, l'armée a divisé Gaza en 2300 carrés. Et il y a beaucoup d'amis qui habitent dans ces carrés-là qu'il faut évacuer. Et tout le monde veut venir à Rafah, mais malheureusement, Rafah est sursaturé. Sursaturé. Il n'y a personne, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas ni dans les écoles, ni les apparts, ni les salles de fête, ni dans la rue, nulle part. Et c'est la panique totale. Et puis, ils ont commencé à bombarder aussi ce qu'on appelle l'est de Khan Younes, Al-Gharara, Bani Sela et compagnie. Il y a flux des personnes qui quittent ces régions-là pour aller à Khan Younes ville. Et même Khan Younes ville, c'est pareil, c'est une ville qui devient sursaturé, il n'y a pas d'endroit pour les nouveaux déplacés.
Et il y a une autre source aussi, ce sont, les ONG, les organisations internationales, type Nations Unies, etc., qui vous servent aussi de source d'information.
Exactement, il y a notamment Médecins Sans Frontières, il y a également les Nations Unies qui sont très présentes, plusieurs ONG qui font état de conditions totalement inhumaines, totalement déplorables, des conditions humanitaires terribles, avec des hôpitaux qui manquent de tout, avec des opérations qui sont obligées d'être faites sans anesthésie, avec du manque de nourriture. En fait, ils font état d'une situation qui est totalement catastrophique, et ça corrobore nous ce qu'on voit, et ça corrobore ce que nous rapportent les journalistes. Donc souvent, un bon journaliste doit croiser ses sources pour avoir une information. Là, en l'occurrence, toutes les sources que nous avons dans la bande de Gaza, pointe vers une situation humanitaire qui est extrêmement compliquée.
Et puis, depuis la trêve, il y a donc des libérations d'otages, on en a parlé, et de l'autre côté, des libérations de prisonniers palestiniens. Vous êtes rendus tous les deux en Cisjordanie à la rencontre d'un jeune garçon qui vient d'être libéré.
Sur ce visage aux traits encore enfantins, comme le goût d'une liberté retrouvée.
Alors, comment ça va, Saïf ? Bienvenue chez toi. C'était comment, la prison ?
À chier.
Saïf, 14 ans, vient de quitter les geôles israéliennes. Il y a 4 jours, il est devenu le plus jeune des prisonniers palestiniens à être échangé contre les otages kidnappés par le Hamas le 7 octobre.
J'ai été arrêté le 24 juillet parce qu'ils m'ont accusé d'avoir jeté des pierres sur des soldats.
Des pierres et des cocktails Molotov. Une manifestation à Bethléem où il aura même perdu une phalange sous une balle israélienne. S'ensuivent 5 mois d'une détention dont les conditions, dit-il, se sont dégradées depuis le début de la guerre.
Le deuxième jour, ils ont pris la télé et ils coupaient l'électricité de 5h du matin jusqu'à 6h le soir. Pour la nourriture, dès que la guerre a commencé, on n'avait plus le droit au riz, juste du pain noir et sec. Ils nous ont humiliés.
Sa mère cache son visage par pudeur, mais pas son soulagement.
J'étais si heureuse quand il est rentré à la maison. C'est un bébé qui a passé 5 mois en prison. Et j'ai pu aller le voir une seule fois.
Ahmed Hamida recense les prisonniers libérés depuis le début de l'accord. Selon lui, ce ne sont pas vraiment des gros poissons.
Pour ce qui est des jeunes, certains ont juste rejoint des manifestations interdites. D'autres ont jeté des pierres ou des cocktails Molotov sur des soldats. Pour les femmes, oui, c'est vrai. Quelques-unes ont tenté de poignarder des Israéliens.
En 7 jours, 240 prisonniers palestiniens ont été remis en liberté.
Ce qui est intéressant dans votre rôle de reporter au Proche-Orient depuis le 8 octobre, c'est que vous êtes amené à interroger la société israélienne, mais aussi la société palestinienne. C'est-à-dire que pour les besoins de vos reportages, vous allez au-delà du mur de séparation. Est-ce que la Cisjordanie, c'est le prochain point d'embrasement ? Est-ce que vous sentez que la situation là-bas est particulièrement tendue ?
Si tu m'avais posé la question il y a trois semaines lors de notre première mission, je t'aurais répondu oui, parce que tous les vendredis, on pouvait voir des manifestations de plus en plus violentes contre le pouvoir israélien, avec des drapeaux du Fatah, de l'autorité palestinienne, également des drapeaux du Hamas, des scènes assez violentes avec des soldats qui tiraient à balles réelles sur les Palestiniens qui manifestaient. Là, la situation qu'on a trouvée, elle est assez différente. On était à Bethléem et il y a eu beaucoup d'arrestations depuis le 7 octobre. Donc il y a quand même un climat de peur qui s'est installé là-bas. La plupart des magasins ont fermé. Noël, qui est extrêmement important à Bethléem, a été annulé. Les gens nous expliquent qu'ils n'osent plus sortir le soir. Donc on sent que c'est des villes qui ont été mises sous cloche. La plupart des Palestiniens ont encore plus de restrictions de déplacement depuis le 7 octobre. Ça veut dire qu'en fait, ils doivent rester dans leur ville. Par exemple, un Palestinien va difficilement pouvoir aller de Bethléem à Hébron, qui est une ville un petit peu plus au sud. Donc on sent qu'il y a un contrôle, il y a une cloche qui a été mise sur la Cisjordanie.
Pour terminer, Nicolas et Théo, vous avez couvert d'autres conflits, je pense notamment à l'Ukraine. Est-ce que raconter ce qui se passe au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens est, comment dire, plus compliqué, plus complexe à décrire ?
C'est personnellement bien plus compliqué. Déjà, comme tu l'as dit, on a la possibilité d'aller en Israël et également en Cisjordanie. Donc en Ukraine, on ne peut pas aller en Russie. Donc on n'a que le point de vue ukrainien. Là, on a le point de vue israélien et palestinien. Et en fait, les deux points de vue sont diamétralement opposés. C'est très compliqué de trouver un point d'équilibre entre les deux, de pouvoir raconter les faits à la fois du côté israélien et à la fois du côté palestinien, parce qu'on va rencontrer des gens qui ont des points de vue très, très opposés. Et d'ailleurs, pour nous, c'est ce qui est le plus intéressant. Mais effectivement, on sent aussi qu'il y a un contexte historique majeur qui dure depuis des décennies et des décennies, qui nous dépasse, qui nous surpasse, qui a commencé avant même que Nicolas ou moi-même soyons nés. Donc effectivement, on sent que c'est un enjeu bien plus majeur.
En fait, on voit aussi qu'il y a énormément d'imbrications dans ce conflit. Il y a bien entendu, c'est un conflit qui est territorial, c'est un conflit qui est également devenu religieux, c'est un conflit qui est régional, parce qu'il y a la menace pour Israël d'un front qui pourrait s'ouvrir au nord. Il y a la situation humanitaire à Gaza. Donc en fait, c'est un conflit, le conflit israélo-palestinien, qui par essence est extrêmement compliqué. Nous, avec Théo, voilà, on est journaliste, on a toujours voulu faire ce métier-là, on a toujours voulu couvrir ces questions-là. Donc forcément, le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose dont on entend parler, depuis qu'on est tout petit. Donc à la fois, on se sent privilégié de pouvoir raconter ça à l'antenne, de couvrir cette période qui est historique pour la région. Et pour autant, oui, c'est extrêmement compliqué. Et plus on travaille dessus, plus on se renseigne, plus on comprend certaines choses. Et paradoxalement, moins on comprend aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'imbrications supplémentaires qui viennent s'ajouter là-dedans.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour vos reportages qu'on voit tous les jours sur l'antenne de BFM TV. Et bon courage pour la fin de cette deuxième mission en Israël. À bientôt.
Merci Greg, salut.
Voilà, c'était le 58e épisode du service reportage, à retrouver quand vous le souhaitez sur bfmtv.com.